لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. أما بعد، Alhamdulillah, mes frères et mes sœurs, la semaine dernière, on a commencé à parler des piliers de la prière. C'est-à-dire, c'est un acte ou une parole, on ne peut pas le rattraper avec ce sujet d'une sahou. Ou bien cette raka'ah n'est pas valide. Alors qu'il y a d'autres actes dans la prière qu'on a vu, pourquoi les ulama ont été obligés de partager les obligations en deux, al-rukn ou al-wajib. Les deux, c'est des obligations. Mais quand ils ont vu que certaines obligations, elles avaient une plus grande valeur, c'est-à-dire qu'elles font partie de l'essence même de la prière, que ces obligations, quand on les délaisse, la rak'at en entier, elle est annulée, elle ne peut pas se rattraper avec ce jadat et sahou. Ils ont compris que ces obligations-là, elles ont un autre degré par rapport aux autres, les piliers de la prière. Car après, on va voir après l'arkan, al-wajibat, elles peuvent se rattraper avec les deux prosternations de l'oubli. En oubliant cette obligation-là, on n'annule pas toute la rak'at. On n'annule pas la prière. Hein? Sauf si on la délaisse intentionnellement. Un recours, l'inclinaison et le fait d'être mutma'in, d'être apaisé et posé dans le recours. Et sur ça, il y a ijma' entre ahli al-ilm, consensus. لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا. لِقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِمُصِيِّ الصَّلَاةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ. Puis va en recours jusqu'à ce que tu te tranquillises dans le recours. وكذلك on n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire une salat sans recours. Donc ça prouve que obligatoirement dans salat il y a le recours. Donc un recours, le minimum pour que le recours il soit accepté, c'est qu'il se baisse au moins jusqu'à que ses mains elles touchent ses genoux. Et d'autres ulama ils ont dit il faut qu'il soit plus proche de l'inclinaison parfaite plutôt que de se mettre debout complètement. Tant qu'il est plus proche de l'inclinaison parfaite, son recours il est valable. Il est acceptable. Par exemple, il y a des gens qui n'arrivent pas à trop se baisser, ils ont mal au dos. Bon, celui-là, il a, on va dire, un odeur. Mais quelqu'un même sans odeur, sans raison valable. Il est là, par exemple, il se baisse à peine. Pour que son recours il soit accepté, il faut qu'il soit plus proche de l'inclinaison complète, c'est-à-dire l'angle droit, que de la position debout. C'est-à-dire pour qu'il dépasse, on va dire, les 45 degrés. Hein? Si on dit debout, il est comme ça, et le recours il est en 90 degrés, il faut qu'au moins elle dépasse les 45 degrés pour que son recours il soit accepté. Non. Le fait de se poser dans le recours, dans le sujoud, c'est quelque chose de très important dans tous les piliers. Car on a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit raki'a. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par al-Nasa'i, ou un hadith sahih, la prière de quelqu'un n'est pas valide tant que la personne n'a pas le dos bien droit. Idem, c'est quelque chose de très important. Les gens maintenant, quand ils font le recours, ils viennent, ils ne se tranquillisent même pas dans le recours. Ils se posent à peine, ils repartent. Ou dans le sujoud. Ils touchent son front à peine par terre, ils se relèvent. Et ça, c'est le madhhab de la majorité des savants, contrairement à ce que dit Abu Hanifa, que pour lui, ce n'est pas un rukn. Ou sahih, c'est que c'est une obligation, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a repris cette personne. Il a fait la prière, il ne se posait pas dans la prière. Hein, il se dépêchait, il faisait des fautes. Donc il lui a montré l'importance de se poser dans chaque pilier, debout, en recours, en se relevant du recours, en sujoud, dans l'assise entre les deux sujoud, dans le deuxième sujoud. Donc c'est très important de se poser. Donc il lui a bien expliqué c'est quoi le minimum pour que ce soit accepté. C'est-à-dire par exemple, si quelqu'un va en recours, tous ses os, ils n'ont pas eu le temps de se mettre posés, de s'arrêter un instant, de faire waqfa, une pause, un moment, alors son recours n'est pas valable. Il faut au moins une pause d'un moment. Le moment au moins de dire une obligation une fois, Subhan Rabbi al-A'la ou bien Subhan Rabbi al-Azim. Et pas comme on voit malheureusement beaucoup de gens prier comme le corbeau. Sallallahu alayhi wa sallam al-Afiyah. Rukn al-Akhar, le fait de se mettre debout après le recours, et le fait de rester aussi tranquille jusqu'à ce que tous les os reviennent à leur place quand on se met debout. Et c'est à ce moment-là que la plupart des gens n'attendent pas. Dans le hadith de Moussa al-Salah, puis relève-toi jusqu'à ce que tu te tranquillises debout. Puis dans le hadith rapporté par le Bukhari de Abi Humayd, il a dit, puis il se relevait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que tous ses vertèbres, ils reprenaient leur place. Donc ça prouve bien que c'est important que tous les vertèbres et les os et le dos, ils se remettent hein, bien droit quand on se relève du ruku'. La prosternation et le fait de se tranquilliser dans la prosternation, donc le même hadith où Allah tabaraka wa ta'ala dit « Ayyuhal ladhina amanu ruku'u wasjudu » le hadith aussi où du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Salat, thumma sjud hatta tatma'inna sajida » et le hadith qu'on a vu aussi auparavant « La tujzi'u salatun la yuqimu rajul fiha » fiha sulbahu fi ruku'i wa sujud. Donc ça c'est bien clair pour le sujud. كذلك هناك حديث آخر للدارقطني الذي صححه الألباني رحمه الله. Quelqu'un qui ne fait pas toucher son nez dans la prosternation autant que son front touche le sol, alors il n'a pas de prière valide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit complétez bien le ruku' et le sujud car wallah je vous vois par derrière mon dos quand vous vous prosternez et quand vous allez en ruku'. Ça c'est un miracle qu'Allah lui faisait voir ce qu'il y avait derrière son dos. Il y a 7 membres qu'on est obligé de faire toucher le sol pendant le sujoud pour que le sujoud soit accepté. Les Qawd ibn Abbas radiallahu anhuma, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, on nous a ordonné de se prosterner sur 7 membres, sur le front. Quand il a dit sur le front, il a montré son nez en même temps, sallallahu alayhi wa sallam. Sur les deux mains, dans une autre version, sur les paumes des mains. Et sur les genoux, et sur le bout des doigts de pied, des pieds. Beaucoup de gens, quand ils prient, ils mettent le dos des pieds par terre. Le minimum pour que son sujoud soit acceptable, un de bar des ulama, parce qu'il faut savoir qu'il y a ikhtilaf sur ce sujet. Comme par exemple l'imam Malik, rahimallah, lui, il voit que si le front et le nez, il touche, c'est valable. Alors que d'autres, comme l'imam Ahmed ibn Hanbal, ils se basent sur ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de se prosterner sur les 7 membres, il dit que si un des 7 membres ne touche pas le sol, son sujoud n'est pas valable, il est manquant. Pour que ce soit valable, il faut au moins que le bout des pieds touche, ou bien le dessous des doigts de pied. Kadhalika, ijma' al-ulama qu'il y a sujoudatayn, 2 sujoud dans la prière, pas un seul sujoud. Kadhalika min arkan as-salah, le fait de s'asseoir entre les 2 sujoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la personne, les musiq as-salah dans le hadith, dans le même hadith, puis assieds-toi jusqu'à ce que tu te tranquillises dans ton assise et on finit avec les 2 derniers arkan, le tashahhud final et le fait de s'asseoir dans ce tashahhud. Il faut savoir que sahaba radiallahu anhum, donc dans le hadith rapporté par al-Nasa'i ou al-Bayhaqi ibn Mas'ud, où il a dit avant que le tashahhud ce soit obligatoire, on disait que le salut soit sur Allah avant ses serviteurs, que le salut soit sur Jibril, que le salut soit sur Mikaïl. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ne dites pas que le salut soit sur Allah, dites At-tahiyyatu lillah, les salutations appartiennent à Allah. Et il leur a enseigné At-tahiyyat, qu'on fait hein, maintenant actuellement. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un s'assoit parmi vous dans la prière, qu'il dise At-tahiyyatu lillah. Donc il a ordonné de le faire. Ça prouve Al-wujub. Il y a certains ulama qui voient que ce n'est pas obligatoire, qu'ils disent que si tu t'assois le temps du tashahhud c'est suffisant, ou juste tu dis la fin du tashahhud c'est suffisant, wa sahih, comme on a vu dans l'ahadith sabiqa, que c'est wajib wa huwa ruknun min arkan as-salah. Il y a plusieurs manières de dire tashahhud qui ont été rapportées du prophète alayhi salatu wassalam. Le hadith ibn Mas'ud, le hadith de Omar ibn al-Khattab qui l'a enseigné les gens à al-mimbar, et d'autres ahadith qui ont été rapportés sur la manière de dire tashahhud. Voilà le hadith le plus véridique dans sa chaîne de transmission, dans sa véracité, c'est le hadith d'Ibn Mas'ud qu'ils utilisent l'Ahnaf, Thawri, Ahmed, d'autres ulama min Jumhur, Aïmat al-Salaf, Al-Tahiyyatu lillahi, wa salawatu wa tayyibatu, Assalamu alayka ayyuhal nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan, abduhu wa rasuluh. Il y a d'autres que la plupart des gens connaissent au Maghreb, التحيات لله الزكيات لله الطيبات والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ففي الفيرسون دو عمر السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يفا وحده لا شريك له نص الرواية c'est un خطأ c'est une erreur de dire وحده لا شريك له à la fin du tahiyya que la plupart des gens du Maghreb disent, al-tahiyyatullahi, al-zakiyyatullahi, al-tayyibat wa salawatullah, dans cette version qui a été rapportée, on ne dit pas ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, on ne rajoute pas. On dit juste ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. C'est des adhkars que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés. C'est des piliers dans la prière. Il ne convient pas à une personne de rajouter ou d'enlever ce qu'il veut dedans. D'ailleurs, il y a une mas'ala dont je veux parler dans ce sujet-là. C'est est-ce qu'on dit assalamu alayka ayyuhan nabi ou on dit assalamu ala al-nabi? Certains min al-ulama disent on dit assalamu ala al-nabi. Pourquoi? Car quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, il disait assalamu alayka ayyuhan nabi. Moi, une fois qu'il est mort, alayhi salatu wa salam, ça a été rapporté de Aïcha radhiyallahu anha qu'elle disait assalamu ala al-nabi. Et ça a été rapporté de beaucoup parmi les sahaba qu'il disait quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, il disait assalamu alayka ayyuhan nabi. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort, il disait assalamu ala al-nabi. Premièrement, sahih, c'est que nous, on prend ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit dites assalamu alayka ayyuhan nabi quand je suis vivant et quand je meurs, dites assalamu ala al-nabi. S'il y avait un besoin, il l'aurait dit. Et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, des fois, ils voyageaient. Ils étaient à des milliers de kilomètres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, ils disaient assalamu alayka ayyuhan nabi. Le plus juste, c'est de se tenir au nas, au hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Et cet ijtihad, l'ijtihad que certains sahaba ont fait, en fait, est ikhtilaf entre les ulama. Est-ce que c'est un ijtihad de leur part ou est-ce qu'ils ont fait ça bi amri nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur a ordonné. Donc ceux qui voient que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur avait ordonné, qu'ils n'ont pas rajouté ça d'eux-mêmes, que sahaba jamais ils auraient rajouté ça d'eux-mêmes, s'ils l'ont fait et si Aïcha radhiyallahu anha l'a fait et le disait, ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait ordonné. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit quand je meurs, dites assalamu ala al-nabi. Donc ceux qui voient ça, ils disent tu dis assalamu ala al-nabi. Et ceux qui disent que non, c'est un ijtihad min al-sahaba, il n'y a pas quelque chose qui dit clairement que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur a ordonné, donc ils disent on se tient au texte. Si quelqu'un dit l'un ou l'autre, il aura pris un qawl min aqwal ahli al-ilm alladhi fihi alayhi al-dalil. Walakin moi je vois que le mieux c'est de se tenir au hadith. De dire assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-din il marche avec l'ittiba, il ne marche pas avec la logique. Qu'est-ce qu'il a dit Ali radhiyallahu anhu? Si la religion elle marchait avec la logique, ce serait plus logique quand tu fais le mas' ala al-khuffayn de passer sous les pieds que de passer sur les pieds. Car sous les pieds c'est là que ça se salit. Mais le din ça ne marche pas avec le ra'y, ça marche avec al-ta'a wa al-ittiba. La personne, elle s'est soumise. Toutes les preuves dans notre religion, c'est ça. C'est quand un ordre du prophète, alayhi salatu wassalam, vient, de bien le comprendre et de bien l'appliquer. Et de laisser notre compréhension et notre expérience de côté. Et c'est ça qui manque aujourd'hui aux musulmans. Quand il entend un hadith, il va dire, oh oui, mais ça, c'était à l'époque du prophète. Hein. Si tu penses comme ça, à quoi ça sert, par exemple, tu tournes autour de la Kaaba cette fois? À quoi ça sert de toucher la pierre noire? À quoi ça sert, tu vas Amina, tu dors une nuit, tu vas à Arafat, tu pries là-bas, tu descends à Muzdalifa, tu dors trois jours à Mina, tu jettes des pierres. Eh, écoute, ça sert à quoi? Vas-y, dis-moi, explique-moi ça sert à quoi. Tu ne pourras jamais expliquer. Pour obéir à Allah, pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour prouver qu'on est des vrais esclaves. Ya Allah, tu m'as dit de m'asseoir là-bas, je m'assois là-bas. Tu m'as dit debout ici, debout. Courir là-bas, je cours. Parle ici, parle. C'est toi. Salat, c'est la même chose. Assieds-toi ici. Mets-toi debout là. Parle ici, ne parle pas ici, dis telle manière, dis pas telle manière, pour voir est-ce que tu te soumets ou est-ce que tu vas en faire qu'à ta tête. Dans le salat, dans le hajj, dans tout ça, les gens, ils ont compris ça. Mais quand ça rentre dans la vie de tous les jours, là, on n'est plus comme ça. On dit, ah non, ya akhi, là, je fais comme je veux. Alors que din, l'islam, il est venu régler aussi ta vie, ta manière de vivre, ta manière de travailler, ta manière d'être avec ta femme. Qu'est-ce que tu as le droit de toucher dans le halal et le haram? Quels achats, quelles ventes tu as le droit de faire? L'épreuve de l'être humain sur cette terre, c'est ça. Est-ce qu'il va se soumettre ou est-ce qu'il va se rebeller? Et quel est son degré de soumission? Est-ce qu'il se soumet complètement, comme Allah Ta'ala a dit, « Ya ayyuhal ladhina amanu dkhulu fi silmi » Kaf. Complètement. Ou bien il se soumet à moitié. Moi, j'accepte de l'islam un robot, un lif, un kaza. Allah, il t'a dit « Dkhulu fi silmi kaf » Complètement. Et c'est ça le plus dur qu'on a. Notre épreuve aujourd'hui, c'est ça. Pourquoi on apprend la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a fait ci, il a fait ça, il a dit ci, il a dit ça, il s'est levé. Des fois, quelqu'un pourrait se demander pourquoi on cherche ces détails? Pourquoi des détails? Ça ne sert à rien les détails. Mais n'oublie pas que Allah Ta'ala a dit, si vous lui obéissez, vous serez guidé. Si on veut la guider, Justement, il faut chercher les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, délaisser les sunnas que les gens ne font plus, il faut les faire revivre. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, il disait, je n'ai pas jamais entendu un hadith sans le pratiquer. Et je ne l'ai jamais pratiqué sans que je l'ai appris par cœur. C'est pour ça qu'il connaissait, rahimahullah, 1 million de hadiths. Allah lui a donné le tawfiq, parce que quand il entend un hadith, il le pratique, même une fois. Par exemple, sur les du'as que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait avant de dormir, ou le matin ou le soir, il y a des dizaines, des centaines de hadiths qui sont apportés sur ça. On ne peut pas tous les dire. Walakin, au moins tu le dis une fois, tu en entends un, celui-là tu le dis un jour, au moins tu auras fait la sunnah. Les autres tu vas les faire constamment, ou bien certains tu vas dire un jour, certains tu ne vas pas dire, mais au moins dis-le une fois. Tu auras gagné l'ajr d'avoir appliqué le hadith du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier pilier est taslim, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. La manière de sortir de la prière, c'est quoi taslim? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finissait toujours la prière en disant assalamu alaykum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné aussi, si quelqu'un il a un doute dans sa prière, فَلَمْ يَذْكُرْ صَلَّ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِي عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمْ. Donc ça prouve qu'il y avait taslim. Pourquoi je dis tout ça? Car certains ulama min al-qudama parmi les anciens disent c'est pas obligatoire taslim. Tu peux sortir de la prière comme ça. Ça y est, tu te lèves, tu pars. Mais sahih, c'est qu'il faut obligatoirement être taslim. Si on prend les choses, les paroles isolées de chaque madhhab, tu vas avoir une religion bizarre. C'est plus la religion que le prophète alayhi salatu wasalam il a transmis. Chaque mujtahid, chaque alim, il peut faire des erreurs, il peut se tromper dans son ijtihad. C'est pour ça que nous, quand il y a divergence entre les savants, on revient à al-kitab wa sunnah. Quand c'est clair, on prend ce qui est plus clair. Quand il y a des avis, kullun minhu yahtamil al-sawab, les deux avis, ils peuvent être considérés comme bons, ou il y en a un plus bon que l'autre, alors dans ce cas-là, on se pardonne sur nos divergences et on accepte donc les divergences entre nous. Naam. Est-ce qu'un seul taslim, c'est valable ou c'est pas valable? Il y a divergence entre les savants. La majorité des savants, ils disent que c'est valable. Walakin sunna, ce n'est pas... Non, vous avez froid, fermez, Inch'Allah. Walakin sunna, ça n'a pas été rapporté. Ceux qui disent ça, après on va voir qu'il y a un autre cas. Ils disent ça n'a jamais été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait assalamu alaykum une seule fois. Jamais. Toujours assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Non. Et ça c'est l'avis de l'imam Ahmed ibn Hanbal dans une riwaya et de certains ulama qui disent que tu es obligé de faire deux taslims. Wa sahih, c'est que tu peux faire un seul taslim. Pourquoi? Premièrement, les hadiths qu'on a cités avant, il parle du taslim ammatan, thumma yusallim. وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ. Donc il n'a pas dit taslimatayn. Donc c'est âme, il dit que c'est taslim. Deuxièmement, le hadith où Abdullah ibn Ubay ibn Awfa, donc ça c'est le witr dont je vous ai parlé hier, qu'il est déjà arrivé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait le witr 9 rak'at d'affilée. Et ça ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, Aïcha radiallahu anha, elle raconte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait fait une fois la prière 9 rak'at d'affilée et elle a dit il ne s'est assis à aucun moment sauf l'avant-dernière rak'at, il a fait tashahud. Et il a fait salat ala nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il s'est levé pour la 9e rak'at. Puis il a fait tashahud et salat ala nabi. Puis il a fait un seul taslim. Donc ça prouve que c'est valable et que ça existe. Car le prophète alayhi salatu wa sallam, il l'a déjà fait. Walakin, ce qu'il faisait tout le temps et constamment, c'est assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Deux taslims. Et c'est la manière qu'il faut adopter. Mas'ala akhira, inshallah. Est-ce qu'on peut dire assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh? C'est une question sur laquelle il y a divergence, car c'est sur un hadith. Ce hadith, certains ulama, ils voient qu'il est sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait rarement. Walakin, le jumhur, déjà, il ne voit pas sihat hadha al-hadith. Il y a certains hadiths, les savants, ils divergent. Celui qui voit que ce hadith, il est sahih, il n'y a pas de mal à le faire quelques fois. Et celui qui voit qu'il n'est pas sahih, alors il ne le fait pas. Il y a un dernier rukn, l'ordre entre les piliers. Ça n'a jamais été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a prié d'une autre façon. Et il a dit sans doute comme ra'aytu minhu yusalli. Et kadhalika, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a enseigné la salat à celui qui ne savait pas bien faire salat, il lui a dit puis tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça. Ça prouve qu'il y a un ordre et que le deuxième vient après le premier, le troisième après le deuxième, etc. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.